France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le jour où Marlon Brando a claqué la porte des Oscars. Le 27 mars 1973, sous les lumières aveuglantes des projecteurs, le Gotha d'Hollywood est réuni au Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles pour assister à la 45e cérémonie de remise des Oscars. Mais déjà en coulisses, une fausse note, un siège vide, une absence qui intrigue, l'acteur Marlon Brando n'est pas là. Brando est pourtant donné grand favori pour l'Oscar du meilleur acteur dans son interprétation brutale et magistrale de Vito Corleone, personnage principal du très bavard Le Parrain. Et quand le nom de l'acteur est finalement annoncé, une silhouette inconnue surgit sur scène. Vêtue d'une robe amérindienne, une jeune femme prend le micro et annonce que Marlon Brando refuse l'Oscar. Shocking! En l'espace de moins d'une minute, la mécanique bien huilée de la cérémonie se grippe, et en direct en plus. Beaucoup de deux papillons dans ce grand bal des égaux annuels s'en souviennent encore. Notre invité aujourd'hui, François Forestier, journaliste, spécialiste cinéma. Affaires Sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Adrien Cara, rédaction chez Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca de Nantes. Réalisation, Étienne Bertin.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter.
En direct de la 45e cérémonie des Oscars. Voici l'entrée du palais de la musique de Los Angeles, Californie, qui ce soir reçoit le tout Hollywood. Depuis le petit matin, la foule se presse pour voir l'arrivée des stars à la cérémonie de ce soir.
Mardi 27 mars 1973, Los Angeles, 15h30. À quelques heures à peine de l'ouverture de la cérémonie des Oscars, le Dorothy Chandler Pavilion est en pleine ébullition. À l'intérieur de la salle, une armée de techniciens de la chaîne NBC s'affaire dans un ballet frénétique. De part et d'autre, des rangées de sièges, plusieurs kilomètres de câbles, une quinzaine de caméras géantes et une trentaine de micros. Tout doit être prêt, mais surtout, tout doit être parfait pour cette soirée historique. Car pour la première fois, les Oscars vont traverser l'Atlantique en direct, en Technicolor et en Mondiovision, pour plus de 85 millions de téléspectateurs dans plus de 42 pays. L'Académie y voit un énorme enjeu, un show planétaire, vitrine culturelle de l'Amérique. Les producteurs se sont d'ailleurs offert les services de la NASA, l'agence spatiale américaine, pour sécuriser la transmission par satellite et ainsi permettre une diffusion quasi instantanée dans le monde entier. La mission Apollo des Oscars ne tolérera ce soir aucun faux pas. En France, les téléspectateurs pourront suivre la cérémonie sur la première chaîne de l'ORTF avec une traduction simultanée assurée par les interprètes. Et c'est le charme discret de la bourgeoisie, film du cinéaste espagnol Luis Buñuel, qui représente les espoirs tricolores dans la catégorie du meilleur film étranger. Reste que la star annoncée de la soirée, c'est Le Parrain, dernier film de Francis Ford Coppola.
Aujourd'hui, vous venez pleurer chez moi en disant « Don Corleone, rendez-moi justice ». Est-ce que je vois un peu de respect? Est-ce que je sens un peu d'amitié? Est-ce qu'il vous vient l'idée de m'appeler parrain? Non, vous venez chez moi le jour où ma fille Connie se marie et vous offrez de me payer pour un meurtre. Un meurtre.
Et ce que je demande, c'est la justice.
Je ne sais pas, justice. Votre fille est toujours vivante.
Je veux les voir souffrir. Autant qu'elle souffre. Combien faut-il payer?
Un réalisateur visionnaire pour un casting légendaire. À l'écran, Marlon Brando, Al Pacino et James Caan. Trio dont les scènes entre eux, parfois tendues, souvent violentes et toujours incertaines, captives. Le Parrain se révèle être bien plus qu'un film. C'est une alchimie hollywoodienne capable de créer des œuvres intemporelles qui triomphent ensuite au box-office. L'Académie des Oscars couronne l'œuvre de Coppola d'une pluie de nominations, 10 au total. Parmi elles, les plus prestigieuses, meilleur film, meilleur réalisateur et surtout meilleur acteur pour Marlon Brando, incarnation d'un Vito Corleone plus vrai que nature. Brando, le nom seul claque comme un coup de fusil. À 49 ans, l'acteur est déjà entré dans la légende d'Hollywood. Un tramway nommé Désir, l'équipe est sauvage, les révoltés de Monty, autant de rôles qui ont sculpté son mythe. Brando, c'est une gueule, une voix, un regard, une présence, quoi. Mais Brando, c'est aussi l'enfant terrible du cinéma américain. Caprice, exigence, improvisation permanente. Ses méthodes de travail chaotiques transforment souvent les tournages en véritables champs de bataille. Profil type du comédien star, retard chronique, implication fluctuante, trou de mémoire délibéré, mauvais choix de film parfois, autant de facéties et d'erreurs qui ont failli ruiner sa carrière. Mais avec Le Parrain, Brando s'offre une incroyable chance de rédemption. Problème. Même dans ce renouveau, l'acteur, originaire d'une famille modeste et alcoolique du Midwest, reste fidèle à lui-même, un génie insaisissable. Un anarchiste qui vomit le système des studios et la mécanique bien huilée des grosses productions. Depuis quelques jours, une rumeur enfle dans les salons feutrés de Beverly Hills. Malgré sa nomination, Brando menace de bouder la cérémonie. Et une provocation de plus qui fait transpirer ses producteurs et désespère Coppola. L'acting sur commande, du théâtre de marionnettes, lance d'ailleurs Brando d'un ton acerbe à une journaliste qui l'interroge sur son métier.
Vous réalisez que vous êtes considéré comme le meilleur acteur de tous les temps?
Mon chien Tim est le meilleur acteur de tous les temps. Il prétend qu'il m'aime quand il veut manger quelque chose. Va-t'en.
Pourtant c'est vrai.
Quelle différence ça fait? Vous voyez, c'est une partie du mal ici en Amérique. À chaque fois, il faut penser à qui gagne, qui perd, qui est bon, qui est mauvais, qui est le meilleur, qui est le pire. On réfléchit seulement comme ça, de manière extrême. Je n'aime pas penser de cette manière.
Ce mardi 27 mars 1973, il est 20h, heure de Los Angeles, lorsque le générique des Oscars retentit dans le Dorothy Chandler Pavilion. Le spectacle tant attendu commence en direct sur 4 continents. Au micro, sur scène, se relaient tour à tour les maîtres de cérémonie. Michael Caine, Charlton Heston, Carl Burnett et Rock Hudson. En face, une salle comble. Le gratin d'Hollywood est là, sur son 31. Les caméras de NBC balayent la salle et révèlent une sorte de who's who du cinéma mondial. Clint Eastwood, Frank Sinatra, Gene Hackman, Robert Duvall, Natalie Wood, Julie Andrews, Lee Woolman, Diana Ross et le cow-boy américain par excellence, roi du western à la papa, John Wayne. Les minutes passent, les récompenses défilent, les applaudissements aussi. Dans la rangée de sièges réservée à l'équipe du Parrain, la soirée vire pourtant peu à peu au cauchemar. À l'image, on aperçoit Coppola, mâchoire serrée, échanger des regards anxieux avec sa femme, Ellie. À leur côté, Al Pacino, nerveux lui aussi, tourne sans cesse la tête vers l'entrée principale. Mais bon sang, où est Brando? Après plus d'1h30 de show, le verdict tombe, implacable. L'excellentissime cabaret de Bob Fosse balaie les espoirs de Coppola et de sa bande. Cabaret remporte pour l'instant 7 Oscars, contre seulement 1 pour Le Parrain. Les visages des producteurs de Paramount, société qui a produit le film de Coppola, se décomposent. D'autant qu'il ne reste plus que 3 récompenses à décerner. Meilleur acteur, meilleure actrice et surtout meilleur film. Et toujours aucun signe de Marlon Brando. Il est 22h15, lorsque, enveloppés dans la lumière dorée des projecteurs, Roger Moore et Lee Woolman apparaissent sur scène. La tension monte d'un cran, car ils s'apprêtent à annoncer l'Oscar du meilleur acteur, l'un des moments phares de la cérémonie. Brando était jusque-là donné archi-favori chez les pronostiqueurs. Mais au regard de cette soirée qui tourne au vinaigre pour le parrain, rien ne semble plus être acquis pour l'interprète de Vito Corleone. Dans sa catégorie, Michael Caine, Peter O'Toole lorgnent eux aussi sur la statuette d'or.
Marlon Brando in The Godfather.
Michael Caine in Sleuth.
Laurence Olivier in Sleuth.
Peter O'Toole in The Ruling Class.
Paul Winfield in Sounder.
Sous les regards impatients de la foule, Roger Moore ouvre l'enveloppe avec une lenteur calculée, puis l'attend à Lee Woolman. C'est elle qui déplie le papier d'une main tremblante.
The winner is... Marlon Brando in The Godfather.
Accepting the award for Marlon Brando in The Godfather, Miss Shasheen Littlefeather.
Un tonnerre d'applaudissements envahit la salle, qui s'éteint presque aussitôt lorsqu'une silhouette inconnue émerge sur scène. Vêtue d'une robe traditionnelle apache, la jeune femme se rapproche du pupitre comme une ombre. D'un geste de la main, elle refuse la statuette de l'Oscar que lui tend Roger Moore. L'acteur britannique au flegme légendaire est désarçonné. Il regarde l'assistance, les coulisses, personne ne bouge. Personne ne comprend. Alors Roger Moore s'écarte et laisse la jeune femme prendre la parole au micro.
Hello.
Bonsoir.
My name is Sashine.
Je suis Sashine Littlefeather.
I'm Apache.
Je suis Apache et présidente du comité de soutien des Premières Nations. Je représente Marlon Brando ce soir. Il m'a demandé de vous dire, dans un très long discours que je ne pourrai pas vous lire maintenant, faute de temps, mais que je serai ravie ensuite de partager à la presse, Marlon ne peut malheureusement pas accepter cette récompense prestigieuse en raison de la manière dont sont traités les Indiens américains par l'industrie du cinéma.
Excusez-moi.
Les premiers applaudissements polis laissent vite place à un mélange de sifflets, de cris et d'acclamations. Dans la salle, les visages sont sidérés. Coppola et l'équipe du parrain semblent abasourdis. Putain, il l'a vraiment fait, lance le réalisateur et son acteur Al Pacino. Dans la salle régie de NBC, c'est la panique. L'un des responsables de la chaîne fait couper le son de la retransmission pendant 30 secondes. En catastrophe, le réalisateur appelle le siège de la chaîne à New York pour savoir s'il doit interrompre la diffusion du programme et stopper le signal vers le satellite. Chacun reste sans voix et sans réflexe par ce qui vient de se jouer sur la scène du Dorothy Chandler Pavilion. Pour la première fois dans l'histoire des Oscars, Hollywood se retrouve humilié en direct. Hollywood, le roi du monde du cinéma, tombe de son piédestal. En moins d'une minute, le discours de Sashine Littlefeather vient rappeler à l'Amérique toutes ses contradictions, dénonçant le racisme systémique et la caricature des peuples autochtones à l'écran, évoquant en toile de fond le siège de Warren Denis. À l'image, on aperçoit Jane Fonda qui lève le poing en signe de solidarité. Quand au même moment, Raquel Welch, elle, quitte la salle pour protester contre le discours. Plus tard, Roger Moore dira « J'ai d'abord cru une blague, à un coup monté. Et puis, j'ai vu les visages se figer dans la salle. Et John Wayne qui est fulminé, prêt à charger sur scène. » Wayne en effet ne goûte guère la plaisanterie. Se redressant sur son siège, commu par un ressort, le visage écarlate, il entre dans une colère noire. Deux agents de sécurité tentent de le calmer. Certains racontent alors que l'acteur aurait lancé « Qu'on me laisse aller sur scène, je vais régler ça à ma façon. » Peut-être se croit-il dans les plaines de l'Arizona, justicier façon western, là où les Amérindiens étaient souvent diabolisés. John Wayne incarne toute cette clique que Brando rejette. Escorté hors de scène par la sécurité, Sakin Little Fever racontera plus tard avoir croisé un réalisateur bien connu qui lui aurait alors caché « Bien joué, Lasco, ta carrière est finie ». Dans la confusion, la cérémonie tente de reprendre son cours, mais l'onde de choc persiste. Quelques minutes plus tard, Clint Eastwood, présentant le prix du meilleur film, tente une blague pour tenter de calmer les esprits, déclenchant quelques rires nerveux dans la salle. Mais personne n'a envie de rire.
Je ne sais pas si je dois remettre cet Oscar au nom de tous les cow-boys qui se sont fait tirer dessus dans les films de western et John Ford.
Si la scène à laquelle on vient d'assister en direct ressemble à une sorte d'improvisation de dernière minute, le coup lui a été prémédité par Brando depuis presque une semaine. Il est un acteur, certes, mais il est aussi un militant en convictions politiques bien tranchées. Par le passé, il a pris position en faveur du combat pour les droits civiques aux États-Unis. Il a aussi dénoncé l'engagement américain dans la guerre du Vietnam. À quelques jours de la remise des Oscars, dans le plus grand secret, il convoque Sakin Little Fever chez lui. La jeune femme est une activiste de la cause Apache. Mais surtout, elle est jeune. Elle est belle. Son visage, face caméra, marquera l'opinion. Brando lui dicte son plan. Elle accepte. Et le matin de la cérémonie, l'acteur remet à Sakin un discours de 15 pages qu'il veut qu'elle lise en direct. Pour jouer l'effet de surprise, la jeune femme se présente dans les coulisses du Dorothy Chandler Pavilion 15 minutes seulement avant l'annonce de l'Oscar. Elle montre le discours à un producteur. Celui-ci ne sait pas quoi dire. Il accepte finalement qu'elle prenne la parole, mais juste pour une minute. Au même moment, dans l'édition du soir du Los Angeles Times, on peut lire cette déclaration de Brando. Hollywood a plus de sang indien sur les mains que les généraux de notre armée. Ils nous vendent des scalps depuis que le cinéma existe. Rafraîchissant. Dans son discours, Sakin Little Fever fait référence au siège de Wounded Knee. Depuis un mois, ce petit village du Dakota du Sud est devenu le symbole de la résistance amérindienne. Sur place, 200 militants occupent les lieux, exigeant le respect des traités bafoués. En réponse, Washington envoie tanks, hélicoptères et quelques 300 marshals fédéraux. Le face-à-face tourne au bain de sang. Les rares images diffusées par la télé choquent l'opinion et elles horrifient Brando. Quand la jeune femme parle des mauvais traitements, chaque personne dans la salle et chaque spectateur comprend qu'il s'agit de balles réelles qui sifflent au même moment dans le Dakota. Là-bas, en effet, dans les plaines enneigées du Midwest américain, une scène terrible, digne d'un mauvais western, est en train de s'écrire. Là-bas, à seulement 2h30 d'avion de Los Angeles, des policiers et des soldats armés de fusils mitrailleurs tirent sur des militants indiens.
We were all wounded.
Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, non à l'Oscar quand le parrain gifle Hollywood.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
À la manière de leurs ancêtres, 400 guerriers d'une tribu de Sioux se sont révoltés aux États-Unis dans un village du Dakota du Sud. À première vue, cette affaire a quelque chose d'anachronique. Mais en réalité, elle ne fait que rappeler à l'opinion publique américaine un problème social qui est toujours d'actualité. Les Sioux ont pris une dizaine d'otages et ils sont assiégés par les policiers du FBI.
Mardi 27 février 1973, États-Unis, réserve indienne de Pine Ridge. Nous sommes à un mois jour pour jour avant la soirée de remise des Oscars. En cette nuit d'hiver, le blizzard balaye les plaines du Dakota du Sud. L'obscurité totale, les températures glaciales. À l'entrée du village abandonné de Wandenney, un convoi d'une cinquantaine de voitures se rapproche. À leur bord, des hommes armés de carabines et autres de pistolets. Ils viennent accomplir ce qu'ils considèrent être leur devoir, reprendre ce que d'autres ont volé à leurs aïeux un siècle plus tôt. Le chef de ce commando de plus de 200 hommes, c'est Russell Means. À 33 ans, il est le leader charismatique de l'American Indian Movement, une organisation de défense des droits des peuples autochtones en Amérique du Nord, comprenait les Indiens d'Amérique. Coiffure traditionnelle avec ses cheveux tressés, veste de peau sur les épaules, Means allume une dernière cigarette. Le signal est donné, l'assaut sur Wandenney est lancé. C'est un symbole, une malédiction. Ici, en 1890, la cavalerie américaine a massacré 300 Indiens, parmi lesquels des femmes, des enfants et des personnes âgées. Depuis, l'endroit n'est plus qu'une zone fantôme, sans réelle construction, sans réel intérêt, excepté un bureau de poste, des églises et un musée. C'est l'assassinat d'un paysan indien par un membre d'un groupuscule nationaliste une semaine plus tôt dans la réserve de Pine Ridge qui a poussé l'AIM à agir. La prise de Wandenney doit mettre les droits des Indiens au centre du jeu politique et dénoncer la discrimination dont ils sont victimes. Sur place, les militants de l'American Indian Movement se barricadent. L'un d'eux dessine au couteau les formes et symboles du drapeau de l'AIM sur le mur de l'un des bâtiments. Un peu plus loin, d'autres dressent le drapeau de l'AIM en haut de l'église. On se partage rations de nourriture et cigarettes. L'attente commence. Devant la caméra d'une télé, Russell Means affirme que ces hommes et lui ne feront aucun mal à la dizaine de personnes qu'ils retiennent en otage.
Retenons pas d'otages, ce sont des prisonniers de guerre. De notre part, ils ne risquent rien, mais le danger existe si la troupe décide d'attaquer.
There are no danger from the Indian people. The only danger is this, the federal troops attack.
La réaction des autorités américaines ne se fait pas attendre. Police, garde nationale et armée débarquent à Wandenney. Au total, les journalistes comptent plusieurs centaines d'hommes en treillis militaires, équipés de fusils M16, des dizaines d'hélicoptères, une quinzaine de véhicules blindés et même des tanks. Ils bouclent la ville. Objectif, je cite, « éradiquer tous les terroristes ». Dans la foulée, le FBI coupe l'eau et l'électricité. Les hélicoptères larguent des fumigènes toxiques. le siège commence. Il va durer 71 jours. Les journalistes sont tenus à l'écart. Dans le Washington Post, l'un d'eux raconte. Au loin, les balles de snipers sifflent. On dirait des scènes de guerre. Et pourtant, nos soldats se battent contre des compatriotes. Car one and only, tous sont américains. Certains, indiens, ont même été décorés pour actions de bravoure au Vietnam. Durant le siège de Wandoni, Brando reste à Los Angeles. Plus tard, dans ses mémoires, il explique ne pas être allé sur place pour éviter de créer un spectacle médiatique qui aurait détourné l'attention du combat des militants indiens. Il affirme également avoir préféré agir en coulisses, en payant par exemple les avocats et les frais de justice des indiens arrêtés. Et c'est dans ce contexte, et au regard des événements de Wandoni, que l'acteur refuse l'Oscar. Le bilan officiel fait état de 2 morts côté indien, un marshal est touché et on compte une 20aine de blessés par balle. L'armée finit par reprendre le contrôle de la ville. L'opération de l'AIM a échoué. Dans les mois qui suivent, 60 militants indiens seront assassinés par des commandos tueurs. Bien qu'aucune photo ou rencontre publique n'atteste d'une amitié personnelle entre Marlon Brando et Russell Means, on sait que les deux hommes avaient des amis en commun. Parmi eux, Dennis Banks, cofondateur de l'AIM, un ancien Marines. Il fait partie des premiers à débarquer à Wounded Knee. Plus tard, dans ses mémoires, Banks racontera « Brando nous envoyait des chèques sans faire de bruit. Il disait « Je joue des révolutionnaires à l'écran, vous êtes en vrai. » De passage en France, Mark Banks demande aux autorités françaises leur soutien pour faire libérer son frère Dennis.
La culture indienne revit après avoir passé par un stade de presque extinction grâce à des leaders comme mon frère Dennis Banks qui ont été à l'origine de Wounded Knee et les Indiens sont de nouveau fiers d'être ce qu'ils sont.
Mercredi 28 mars 1973, Los Angeles. Au lendemain de la cérémonie des Oscars, Hollywood se réveille en état de choc. Sur la colline de Beverly Hills, refuge des stars étoilées du cinéma américain, le nom de Brando est sur toutes les lèvres. Ailleurs, en ville, son coup d'éclat de la veille fait ce matin-là la une de toute la presse. Les réactions des journalistes sont contrastées. Du côté des titres conservateurs, la colère, le mépris dominent. Le Los Angeles Times, par exemple, dénonce un manque de respect de Brando envers l'Académie. Il rappelle que, lorsque les Oscars ont sacré Brando comme meilleur acteur en 1954 pour son rôle dans le film Sur les quais, cela avait été le tremplin de sa carrière. Et aujourd'hui, Brando leur crache au visage, sans retenue. Même écho dans les colonnes du Hollywood Report, la Gazette People du cinéma à Los Angeles. Brando est décrit comme un millionnaire qui joue les révolutionnaires. Et il est aussi accusé d'avoir utilisé Sakin Little Feather comme un simple pion qu'il a sacrifié. Bien plus tard, l'un des producteurs du parrain, Robert Evans, lâchera cette phrase qui en dit long. Ce qui s'est passé ce soir-là, c'était du pur Brando. Faire un coup d'éclat tout en restant planqué chez lui. C'est vrai, le soir de la cérémonie des Oscars, Brando était apparemment dans sa villa en train de regarder un match de baseball. La révolution version lounge, commentent les journalistes. Outré, le conservateur Charlton Heston, chantre de la défense de l'article 5, qui permet à chaque Américain de posséder une arme, réagit sur le même ton. Brando aurait dû venir lui-même sur scène s'il voulait faire son numéro de martyr. Là, au moins, il aurait de la crédibilité. Quelques semaines plus tard, Brando sort du silence et donne une interview filmée explosive au journaliste Dick Cavett. Lorsque celui-ci lui demande s'il regrette son geste, la réponse est sans appel.
Well.
Eh bien.
I don't think so. No, I felt that.
Je ne pense pas. Je pense
that there was an opportunity for
qu'il y avait là une opportunité pour les Indiens américains de faire entendre leur voix quelque part dans l'histoire des États-Unis. J'ai pensé que c'était une merveilleuse opportunité pour une personne indienne de partager son point de vue avec 85 millions d'Américains. Je suppose que c'était ça l'audience. J'ai le sentiment qu'ils en avaient le droit, vu ce que Hollywood leur a fait.
Si la presse progressiste américaine salue l'initiative de Marlon Brando, les conséquences vont lui coûter cher. Paramount, société qui produit le parrain, suspend tous les projets de films qui incluent ou incluraient Brando dans leur casting. L'acteur se retrouve aussi rayé du projet Superman et remplacé par Glenn Ford dans le rôle Jor-El. Enfin, Marlboro, fabricant de cigarettes, interrompt son contrat publicitaire avec lui. C'est la cancel culture avant l'heure. Idem pour Sakin Little Fiver, évidemment. Son agent l'abandonne et lâche cette phrase dans les colonnes de Variété. Personne ne veut d'une indienne qui fait des vagues. Pendant plusieurs mois, la jeune femme reçoit des lettres de menaces de mort. Elle est obligée de déménager et de changer temporairement d'identité. Sa carrière d'actrice est terminée. La suite est une longue traversée du désert, un silence et de plongée dans l'oubli qui va durer presque 50 ans. Suite à l'affaire, l'Académie des Oscars a mis en place une règle qui interdit les discours politiques et revendications par procuration lors de la cérémonie de remise des prix. Boycotté par le tout Hollywood pendant presque 5 ans, vivant exilé dans son ranch, Brando retrouve le chemin de la gloire et le succès en 1979 dans le film Apocalypse Now de Coppola, toujours. Paradoxe de la situation, malgré l'opportunité de relancer sa carrière et surtout un chèque de plusieurs millions de dollars pour seulement 3 semaines de tournage aux Philippines, Brando joue encore Brando. Il rend fou Coppola et son équipe de tournage. Il se présente le visage bouffi, fatigué, le crâne rasé, presque obèse, face à la caméra, exigeant de pouvoir improviser et qu'on lui souffle certaines répliques via une oreillette. Un délire sur toute la ligne, mais un délire gagnant. Dans les habits du colonel Kurtz, pour les scènes finales d'Apocalypse Now, Brando est mythique et il porte avec lui la réussite hors norme du film de Coppola. Il faut attendre 2022 pour le... Il faut attendre 2022 pour que l'Académie des Oscars revienne sur cette affaire et présente des excuses officielles à Sakin Little Fiver. Nous reconnaissons aujourd'hui votre courage. Votre discours était prophétique, écrit le président de l'Académie. Atteinte d'un cancer, Sakin Little Fowler meurt dans les semaines qui suivent, sans avoir pu véritablement profiter de sa rédemption auprès d'Hollywood et du monde du cinéma. En 2023, un documentaire intitulé Sakin, produit par l'Académie elle-même, revient sur l'affaire, évoque le contexte de Walden Nee et montre à l'image l'agressivité dont elle fut victime de certains acteurs à son égard lors de la cérémonie, et c'est bien sûr le cas de l'ineffable John Wayne. Dans un livre d'entretien paru récemment, le réalisateur Martin Scorsese, autre légende du cinéma américain, offre une analyse sans nuance sur cette affaire, et je le cite. « Brando, ce soir-là, n'a pas refusé un Oscar pour le symbole, histoire de refuser une statuette. Non, il voulait mettre l'industrie du cinéma face à ses contradictions et offrir à Hollywood son premier procès en direct. Et sur ce point, il a réussi. »
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, quand Marlon Brando gifle Hollywood, notre invité François Forestier, bonjour.
Bonjour.
écrivain, journaliste, spécialiste du cinéma, de ses coulisses et de certains de ses personnages. Vous êtes l'auteur de nombreux livres. Vous avez écrit un ouvrage de référence sur Marlon Brando, intitulé « Un si beau monstre ». Ce livre est paru aux éditions Albin Michel en 2012. Et votre dernier livre, intitulé « Les injusticiers, la liste noire de McCarthy », est paru en octobre 2023 chez Grasset. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Bon, d'abord, votre regard sur l'acteur Marlon Brando et l'homme Marlon Brando.
Alors, l'acteur, c'est très simple, il y a eu un avant et un après. Personne n'a pu jouer comme avant une fois que Brando est apparu à l'écran. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'homme, lui, est une masse de contradictions. C'est d'ailleurs pour ça que cette cérémonie bizarre a eu lieu. Parce que finalement, on peut se demander pourquoi il a envoyé quelqu'un. C'est une question que, ce soir-là, Michael Caine a immédiatement posée, en disant, mais on envoie une fille qui est indienne pour lire un texte que lui a préparé, mais pourquoi il n'est pas venu? Donc, et ça, il y a une explication, c'est tout simplement dans les contradictions de Brando, profondes, et qui ne se résoudront jamais.
Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un avant, un après Brando? Quelles sont ces qualités intrinsèques et artistiques qui en font un monstre?
Alors, un monstre dans sa vie privée, ça a été vraiment un monstre pour des raisons de destruction intime. Son père était quelqu'un de très très rigoureux, sa mère était alcoolique, enfin c'est lui, quand il était petit, il allait chercher sa mère qu'on retrouvait dans un ruisseau ou qu'on retrouvait dans le lit de quelqu'un d'autre. Donc c'était, et une fois il est même été la chercher dans le lit d'un, elle était saoule, dans le lit d'un unijambiste. Donc vous imaginez un gamin de 14 ans qui retrouve sa mère comme ça, la catastrophe psychologique est folle.
Les valises sont lourdes, pensez.
Voilà. Et en revanche, il a mis en œuvre, il est passé par l'acteur studio, il a mis en œuvre toutes ses contradictions intimes pour être un acteur exceptionnel. Et sous la direction d'Elia Kazan à l'acteur studio, et Elia Kazan, je l'ai rencontré, il me l'a confirmé, il m'a dit, si vous aviez connu Brando à l'époque où il était sur la scène pour jouer un Tramène de mes désirs, qui deviendra un film, vous n'avez pas idée de la magie que cet homme dégageait sur scène. En effet, ceci dit, il reste beaucoup de cette magie dans le film, et c'est l'une des questions qu'on peut se poser à propos de la position politique de Brando, car, comme vous le savez, Elia Kazan est devenue l'une des balances, l'un des dénonciateurs de la liste noire les plus importants. Or, Brando a quand même tourné 3 films avec lui. Donc c'est quelque chose d'extrêmement douloureux, sur lequel c'est une chose que Brando ne pardonnera pas, mais en même temps il est obligé, puisque c'est son mentor, hein, Elia Kazan. Donc voici, il est dans une situation invraisemblable, psychologiquement, et n'oubliez pas, nous sortons de la période McCarthy, c'est-à-dire extrêmement violente contre la gauche à Hollywood. Donc nous sommes au début de cette régression qui dans les années 60 commence à exister, et il y a une réaction qui se produit, notamment avec Jane Fonda, et il faut prendre position dans un sens contraire. Brando a été pris entre cette époque qui était la liste noire et entre ces années 60 qui était une libération de gauche. C'est d'où cette espèce d'hésitation, et d'où, je pense, le fait qu'il s'est fait remplacer par quelqu'un pour venir lire son discours.
Et concernant ses qualités d'acteur, il y a chez Brando quelque chose d'extraordinaire, c'est le jeu avec le corps. Une espèce de lourdeur, comme ça, qui est très impressionnante. Un acteur de corps également.
Oui, mais cette lourdeur n'existait pas au début. Hein. Quand il était très jeune, il n'avait pas cette lourdeur. Il avait plutôt une agilité incroyable. Il a une facilité folle pour improviser, il adore ça. Et en même temps, il y a quand même quelque chose de magique que vous n'expliquerez pas, et moi non plus, et que personne n'a pu expliquer, c'est que la caméra l'adore. D'abord parce qu'il est d'une beauté invraisemblable, et il y a un magnétisme qui se démultiplie dès qu'une caméra est là. Quand on le rencontre, il est, bon, c'est un garçon sympathique et plutôt agréable, et quand il est à l'écran, le film est absolument habité par lui.
Alors on le dit ingérable, voire insupportable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a une part de mythe, de réalité, les deux en même temps? Qu'en disent les ceux qui l'ont fait tourner? Coppola, par exemple, dans Apocalypse Now. Qu'est-ce qu'il dit de lui?
Il y a les deux choses, c'est-à-dire il est ingérable, parce qu'à l'époque où il tourne Le Parrain et ensuite Apocalypse Now, sa situation psychologique s'est aggravée quand même. Mmh. C'est quelqu'un qui est devenu gros, qui se suicide littéralement en devenant obèse, donc il détruit cette image de lui-même, et en même temps il a absolument besoin de prouver que son métier, qu'il méprise. Il pense que le métier d'acteur, c'est vraiment un truc superficiel, que le théâtre, c'est la superficialité même. Et en même temps, c'est ça qui le fait vivre, et c'est ça qui le couronne meilleur acteur du monde. Donc, il a besoin d'insuffler dans sa vie du sens. Et quel meilleur sens peut-on trouver que dans la politique? Or, Hollywood, à l'époque, sous le feu de McCarthy, est quand même un lieu de gauche, plutôt. Hein. Et donc, il épouse plus ou moins les opinions qui traversent Hollywood à ce moment-là, et avec bon cœur. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui fait ça superficiellement. Hein. Mmh. Il soutient les Noirs, il soutient les droits civiques, il soutient les mouvements indiens, il est de tous ces coups-là, et il finance en plus. Il y trouve quand même une justification de sa vie. En revanche, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a, une fois qu'il a touché à la politique, il cherche à insuffler dans les films des messages de gauche. Ainsi, quand il tourne le film de Christophe Colomb en 1992, il demande au producteur, Salkind, s'il peut rajouter des choses pour le traitement des Indiens qui ont été découverts par Colomb et qui ont été massacrés d'ailleurs. Et évidemment, Salkind, le producteur, lui dit, non mais attendez, il y a un scénario, vous le tournez, vous avez été payé 5 millions de dollars. Silence.
France Inter. Affaires sensibles.
François Forestier, dans cette histoire, il y a quand même un personnage, évidemment Brando, mais l'autre personnage principal, c'est cette femme, Sakine Little Feather.
Ça veut dire petite plume.
Petite plume, j'avais dit feather au départ, donc ça veut dire feather. Bah, parlons-en, parce que son rôle, qui est cette femme, c'est quoi ce destin? Parlez-nous d'elle.
Alors, c'est une jeune femme qui a essayé de faire une carrière au cinéma. Elle est jolie, elle est sympathique, et puis c'est le moment. On cherche des visages aussi intéressants que le sien. Mais le problème, c'est que bon, on n'est pas sûr qu'elle ait un talent fou. Donc elle se contente de petits rôles. Elle rencontre Brando chez Coppola à l'époque, mmh. qui prépare le parrain, et ils s'entendent bien, il la trouve sympathique, et il pense à elle pour le représenter à la cérémonie des Oscars. Le problème, c'est qu'elle se présente partout comme une indienne issue de d'Apache et de Yaqui. Il n'y a rien de tout ça. On a vérifié plus tard. Elle n'a jamais été indienne. Elle n'a pas une goutte de sang indien. Elle est d'origine mexicaine. Elle s'appelle de son vrai nom Maria Louise Cruz. Son père est un sellier, tout simplement, qui fabrique des selles pour les cow-boys. Mmh. Et sa mère a abandonné la famille à l'âge de 4 ans. Le résultat, c'est qu'on a une jeune femme qui est complètement déstructurée et qui très jeune, a été internée. Elle est schizophrène. Elle a été internée pendant un temps, elle en parlera plus tard assez librement, mais à ce moment-là, personne ne le sait. Et donc, elle est rentrée dans ce personnage de fausse indienne avec bonheur. Elle a trouvé une justification pour être actrice, mais pas au cinéma, dans la vie réelle. Et elle jouera ce rôle jusqu'à la fin de sa vie. Finalement, à force de se prétendre indienne jusqu'à la fin de sa vie, les Indiens eux-mêmes, et Russell Means, le chef du mouvement indien, l'accepteront et la traiteront comme une indienne. Donc c'est plutôt sympathique comme destin.
En revanche, ça ne fait pas une carrière cinématographique.
Ah non, non, sa carrière a été... Non, quand elle est apparue aux Oscars, sa carrière cinématographique a été sciée du jour au lendemain. C'est fini. Hein.
Ben oui.
Elle peut pas... On n'en veut plus, on la met sur la liste noire. Puis la vérité, c'est peut-être qu'elle n'avait pas une présence à l'écran non plus extraordinaire, et qu'elle apparaît quand même comme une marionnette de Brando.
Bien
donc
sûr.
C'est pas ce qu'il y a de meilleur comme carte de visite. Mais enfin, c'est une personne qui a beaucoup souffert de ce moment-là, et qui a été insultée, mais dans des proportions que vous n'imaginez pas. Enfin, si ça se passait aujourd'hui, ça serait encore pire. Hein. Et je dois dire que le message de Brando, et ça, il faut le redire, le message de Brando qui a été fait maintenant il y a des années et des années, reste plus que jamais actuel dans l'Amérique d'aujourd'hui. Hein. Faut pas plaisanter. Hein. C'est aujourd'hui dans ce qu'on voit se passer dans l'Amérique de Trump, Brando n'aurait, je sais pas s'il aurait sa place, mais en tout cas certainement il ferait entendre sa voix.
C'est pour ça d'ailleurs que Brando s'inscrit bien, cette histoire s'inscrit bien dans ce qu'on appelle les affaires sensibles. Il y a quelque chose de vraiment sensible. Alors on dit, je ne sais pas si c'est vrai, que Brando et les femmes c'est une relation compliquée. Alors je ne sais pas dans sa vie, en tout cas avec des actrices, je crois que vous en parlez dans votre livre.
Il a des relations compliquées avec tout le monde. Enfin, c'est un type qui s'aime et se déteste en même temps. Donc, vous imaginez bien les filles. On m'a raconté, John Milius m'a raconté qu'il avait assisté quand même à Brando draguant une fille. Il avait déjà une quarantaine d'années à ce moment-là. Il drague une fille, il l'amène chez lui, il passe un moment ensemble, ils bavardent, et finalement il se destine il la dirige vers sa chambre à coucher, et il passe toute la nuit à manger des crèmes glacées au bord avec la fille couchée dans le lit en attendant qu'il se passe quelque chose. Il ne se passera jamais rien. Donc c'est typique de Brando, c'est-à-dire oui. Être là où on ne l'attend pas, faire des choses où on ne l'attend, qui ne sont pas prévues, et en même temps séduire, parce qu'il a quand même une séduction invraisemblable. Je veux dire, quand il jouait au théâtre en début de sa carrière dans Un tramway nommé Désir, quand il sortait de scène, il trouvait dans sa loge les clés d'hôtel, vraiment une poignée, hein, les clés d'hôtel des femmes qui auraient souhaité sa visite dans leur chambre d'hôtel. Enfin, c'est quand même invraisemblable, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui a été très, très gâté sur ce plan-là, qui a été désigné comme objet sexuel très tôt. Et aussi qui a été désiré par la communauté homosexuelle. Tennessee Williams, etc., étaient des amis proches, et qui sait, peut-être qu'il y a eu une tentative de ce côté-là. C'est quelqu'un qui est déchiré sur le plan sexuel, sur le plan politique et sur le plan personnel constamment.
Bien, ben ce sera le mot de la fin, François Forestier. Merci.
Merci.
Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Marlon Brando refuse l'Oscar. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Frédéric Kiefer.